France Culture. Beata Omoubieyi-Mérès, bonjour.
Bonjour Caroline Brouet.
Le convoi de la vie, c'est le titre de ce deuxième épisode. Et c'est comme ça que vous appelez le convoi humanitaire qui a sauvé votre vie, celle de votre mère et celle de beaucoup d'enfants, en 1994, qui fuyaient les massacres, le génocide, là ça a un nom très net, très clairement, un génocide qui va provoquer la mort de près d'un million de Tutsis au Rwanda en 90 jours. Vous-même, votre famille, avez perdu des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, des voisins, des amis. Mais vous, avec votre mère, en avez réchappé, miraculeusement. Vous aviez 15 ans, en 1994. Et toute cette partie de l'histoire, vous avez mis 30 ans à l'écrire. Vous l'avez racontée dans un récit qui fera date, qui fait déjà date, qui s'appelle « Le convoi ». Il a paru en 2024. C'est un récit qui est multiprimé. Le dernier prix, c'est le prix Franz Essel, franco-allemand, au moment où nous enregistrons ces émissions. Alors, on va raconter le convoi de la vie, enfin, ce qui a fait que vous êtes allé vers la vie et que votre vie a été sauve. Mais pour raconter comment vous êtes allé vers la vie, il faut raconter le contexte et en particulier revenir à ces jours où vous avez été pourchassé, traqué avec votre mère par les Hutus. Une traque qui a duré 2 mois, entre le 7 avril et le 7 juin. Et puis le 18 juin, où vous avez pu vous échapper, mais là, vous étiez presque sorti d'affaire, on va dire. Et je précise, Beata Omoubieyi-Mérès, que, comme dans le premier épisode, que c'est difficile pour vous, évidemment, de parler, de raconter ça. Pendant très longtemps, vous n'avez pas raconté cette expérience personnelle. C'est pas pour rien que je dis que vous avez mis 30 ans à écrire votre histoire. Et puis, à partir de 2016... Et ça, on y reviendra dans le dernier épisode aussi. Mais vous êtes allé dans des classes de lycéens. Et là, vous avez réussi à parler de cette histoire, à raconter cette histoire. Donc imaginez que je suis une classe d'adolescents, moi toute seule. Alors déjà, à quel moment vous avez commencé à sentir que les choses tournaient mal à Boutaré? Est-ce que c'était des conversations? Est-ce que c'est la radio que vous écoutiez? Pas la radio des Mille Collines, mais Radio Rwanda. Est-ce que c'était l'ambiance dans les rues? Est-ce que vous vous souvenez de ces jours qui ont précédé la bascule du 7 avril?
Oui, la dégradation de la situation a été assez rapide. Néanmoins, il faut vraiment se rendre compte que c'est à partir de 90, et quand la guerre civile éclate, c'est-à-dire qu'il y a les Tutsis et qui ont fui les pogroms des décennies précédentes, qui ont formé ce Front patriotique rwandais, qui ne pouvant rentrer pacifiquement ce qu'ils réclamaient depuis des décennies, décident de prendre les armes, et qu'il y a cette guerre civile qui éclate, que la situation commence à se dégrader, même si dans les années avant, évidemment, moi j'en étais pas forcément consciente, mais les Tutsis étaient quand même des citoyens de seconde zone et n'avaient pas le même accès au poste, à l'éducation. Et pour moi, ça commence vraiment avec une première rafle, celle qu'on a appelée la rafle des Ibditso, c'est-à-dire les gens qu'on considérait comme étant les complices du FPR, et essentiellement des Tutsis, mais aussi des Hutus démocrates dans le pays. Et ensuite, la mise en place, littéralement, d'une propagande raciste qui va passer essentiellement par les journaux, la création ensuite de la radio-télévision des Mille Collines, qu'on surnommera plus tard Radio Machette, et puis parallèlement à quand même une démocratisation du pays, parce qu'il y a mobilisation, création de partis politiques, alors que jusqu'alors ça avait été un parti unique, on vivait dans une dictature. À la fois un espoir qui naît, donc porté par des Hutus démocrates, des Tutsis, et l'idée que peut-être les Rwandais et Rwandaises vont de nouveau vivre ensemble sans ces étiquettes ethniques qui avaient été antagonisées déjà depuis l'époque coloniale. Parallèlement à cet espoir et à cet élan démocratique, la machine de propagande raciste fait son travail. Mais jusqu'en 94, finalement jusqu'au 7 avril, bien que la situation soit tendue, on disait d'ailleurs à Lumumba, comme il y a un vent mauvais, on ne pensait pas qu'il y aurait ça. Et ça étant l'extermination des Tutsis du Rwanda.
Votre mère étant Tutsi,
oui.
Vous avez dû vous cacher.
Voilà. Et là encore, au départ, le génocide commence le 7 avril à Kigali et très vite se répand dans toutes les autres préfectures. Mais il faudra attendre le 20 avril pour que Butare bascule. Comme j'ai dit hier, Butare était une ville particulièrement modérée. C'était la seule ville du pays où il y avait un préfet Tutsi depuis peu de temps. Et donc, on était convaincus que ça n'arriverait pas jusqu'à nous. Et d'ailleurs, le régime génocidaire décide de mettre au pouvoir, quand il crée ce gouvernement par intérim qui est mis en place, il décide d'y mettre des personnalités politique de Butare, justement pour enclencher cela. Et il faudra que le président par intérim, Sindi Kugabo, qui était un médecin de Butare, vienne faire un discours en disant aux habitants de Butare, il faut que vous aussi vous vous mettiez au travail, vous ne pouvez pas faire comme si cela ne vous regardait pas. Donc dans les premiers jours du génocide,
travail, à ce moment-là, ça voulait dire aller tuer les gens.
Absolument, hein, c'est le terme qui a été utilisé. La langue rwandaise, comme l'a été d'ailleurs la langue allemande, est contaminée par le génocide. Des termes sont appropriés par les tueurs. Et donc, dans les premiers jours, il y a un couvre-feu, évidemment. Ma mère et moi habitons dans un petit appartement qui fait partie d'un complexe hôtelier au plein centre de Butare. Et donc on a peur, évidemment, on a des gens qui arrivent à quitter Kigali, qui arrivent en nous disant ce qui se passe là-bas. Et petit à petit, l'étau se resserre. Et pour nous, il va y avoir plusieurs éléments déclencheurs qui font qu'on doit quitter cet appartement. Il y a quelqu'un qui vient frapper à notre porte un jour et on entr'ouvre la porte et c'est un homme qui est visiblement très apeuré, qui vient d'une colline un peu plus loin et qui nous dit que là-bas on a déjà commencé à tuer. Et on lui donne un peu de ce qui nous reste à manger parce qu'évidemment les provisions se sont plus qu'amenuisées. Et lui nous dit, il faut pas rester là, je continue, moi, faut pas rester ici. Et puis, il y a aussi un militaire, un soldat, qui frappe à notre porte et qui rentre et qui regarde ce qu'il y a. Alors, on n'était pas très riches, donc il voit quels sont les objets de valeur et il nous dit, je vais prendre vos bicyclettes, de toutes les façons, vous allez être tués bientôt, vous n'en aurez pas besoin. Voilà, plusieurs éléments qui font qu'à un moment donné, il faut se cacher. Et dans cet hôtel, il y a deux employés qui, bien que Tutsi ont des cartes d'identité de Hutu, il faut savoir que, pour les gens qui ne connaissent pas le Rwanda, les Hutus, les Tutsis et le troisième groupe, les Twa, avons la même langue, la même culture, avions les mêmes croyances précoloniales. C'était des différences socio-économiques, politiques. Enfin, les uns étaient agriculteurs, les autres étaient éleveurs. Je schématise énormément, évidemment. Mais quand on rencontre un Rwandais, une Rwandaise, on ne peut pas savoir à son physique, ni à son nom, ni à sa façon de parler, s'il est Hutu ou Tutsi. Même s'il y a eu des schémas très clichés, des grands, des petits, etc., qui ont permis, oui, aussi cette antagonisation à l'époque coloniale belge. Mais il faut des cartes d'identité. Et ces deux hommes-là ont des cartes d'identité de Hutu. Et c'est eux qui vont essentiellement nous cacher dans différents endroits de l'hôtel. Ils vont être aidés un peu aussi par deux autres employés de l'hôtel Hutu, eux. Je dis un temps parce qu'on pense qu'à un moment donné, ils font partie de ceux qui nous ont livrés aux tueurs et qui ont fini par vendre la mèche. Et donc, pendant 2 mois, on va passer d'une cachette à l'autre dans ce grand complexe hôtelier qui est un bâtiment qui date de l'époque coloniale. Ce qui fait qu'il a, entre autres particularités, des caves. Et quand notre première cachette devient incertaine, c'est-à-dire des chambres d'hôtel, après que des militaires les aient fouillées et miraculeusement ne nous aient pas trouvées, les gens qui nous cachent décident de nous amener quelque temps nous cacher dans une cave.
Et vous tenez comme ça, Beata Omoubié-Imérès, jusqu'au 7 juin. Qu'est-ce qui se passe le 7 juin ?
C'est le jour où une bande de tueurs nous découvre. À ce moment-là, on est de nouveau dans une des chambres de l'hôtel. Et on pense qu'on a été dénoncé par les gens les Hutus qui nous avaient caché un temps. Est-ce par lassitude, est-ce pour d'autres raisons, on ne saura jamais. Et donc ces hommes qui sont essentiellement, je pense, des paysans, armés de tout un tas d'outils de mort, des machettes, des gourdins, des couteaux de cuisine, des brochettes, des pics à brochettes, nous cassent les vitres, cassent la porte de la pièce dans laquelle on est terré. Et en me voyant, une première exclamation, il y a une blanche à cause de ma peau métisse. Puis ils nous sortent sur le perron de cette chambre et commencent à demander sa carte d'identité à ma mère, évidemment, pour vérifier qu'elle est bien Tutsi, même si le fait qu'on soit caché ne laisse pas beaucoup de doutes. Et pendant qu'elle est tremblante, terrorisée, en train de... Je ne sais pas si elle essaye de gagner du temps, ou en tout cas elle fouille dans son sac à main. Moi, je commence à élaborer une histoire, un mensonge. En tout cas, je décide que je vais profiter de cette identification comme blanche pour essayer de nous sauver. Je n'ai pas encore parlé à ce moment-là, donc je décide de prétendre ne pas comprendre le Kinyarwanda, qui est ma langue maternelle, qui est la langue que tous les Rwandais et toutes les Rwandaises parlent. Et je vois, j'identifie alors encore une fois cette mentalité caméléon qui fait que je suis capable très vite d'essayer de voir avec qui je suis. Et j'identifie qu'un des hommes du groupe est très propre sur lui, ne porte pas d'armes, il a un petit bic qui sort de sa pochette de chemise. Et je me dis, ça doit être le chef de la Igitero, c'est le groupe d'assaillants. Et ça doit être un intellectuel. Donc je m'adresse à lui, je lui dis, je ne parle pas le Kinyarwanda, je ne comprends pas ce que vous dites. Pouvez-vous me parler en français ? Et je prétends être française. Je dis, mon père est français. Et vous ne pouvez pas me tuer parce que la France est votre allié. Je vais même jusqu'à le menacer... ce qui est complètement fou dans une situation pareille, en disant « Mais si vous tuez une Française, François Mitterrand sera mécontent et pourrait vous retirer son soutien. » Alors, tout à l'heure, vous me disiez « Parlez-moi comme si j'étais...
» Une classe d'adolescents.
Voilà, des adolescentes et des adolescents. Et c'est vrai que c'est... Quand j'interviens dans les établissements scolaires, je leur dis ce que j'ai vécu, j'avais votre âge aujourd'hui. Et ça crée vraiment une connexion très forte. Et je ne me contente pas de leur dire ce que j'ai vécu, mais j'essaye aussi de leur passer des messages. Et notamment, je leur dis, ben voilà, ce jour-là, je savais que la France était considéré comme un soutien par les génocidaires. Je m'intéressais à l'actualité, ma mère écoutait beaucoup la radio et ça m'a sauvé la vie. Mais aussi parce que, évidemment, j'avais cette peau claire et parce que, ayant été scolarisée dans cette école internationale, je parlais français sans accent. C'était tout un ensemble de choses qui ont fait, en tout cas, que ce mensonge-là nous a sauvé la vie, puisqu'ils m'ont cru et qu'ils ont décidé que nous ne devions pas être tués. Et il se fait qu'il y avait encore, tous les Blancs avaient été évacués de la ville depuis très très longtemps, mais il y avait encore un Français qui était là, dont je suis pratiquement convaincue que c'était une barbouze qui était là pour les services secrets, ou en tout cas un ancien militaire visiblement. Et donc le meneur de la bande de tueurs est allé le chercher en lui disant « Eh bien, nous avons trouvé une Française là-bas. » Et cet homme est venu me chercher en voiture et m'a conduit une première nuit d'abord que j'ai passée à l'évêché avec une religieuse allemande qui était là aussi, qui n'avait pas été évacuée, qui me connaissait. Et dès le lendemain, il est revenu me chercher pour m'amener à l'école sociale qui était occupée depuis quelques semaines par une ONG, en tout cas par des humanitaires. Ma mère a passé une nuit encore à l'hôtel. Donc j'avais très très peur que, n'ayant plus la protection de ma présence, elle soit tuée, mais voilà, fort heureusement, dès le lendemain, elle a pu me rejoindre dans cette école. Donc c'était le 8 juin. C'est une ONG suisse. Terre des Hommes était une ONG qui avait vocation à venir en aide aux enfants en détresse de par le monde. En tout cas, c'est un humanitaire suisse qui s'appelait Alexis Briquet, qui était arrivé au Rwanda au moment où le monde entier nous avait abandonnés, où la grande, très grande majorité des humanitaires avaient été évacués, c'est-à-dire un peu après le début du génocide. Lui avait fait le chemin inverse, il était passé par le Burundi. Puis il a rencontré au Burundi, à Bujumbura, le consul d'Italie, Pierre-Antonio Costa, qui était un homme qui connaissait le Rwanda depuis très longtemps et qui lui avait été évacué, mais continuait à faire des allers-retours entre le Rwanda et le Burundi pour essayer d'aider des gens et de sauver des vies. Quelqu'un m'a dit un jour, c'est un peu comme le Schindler rwandais, parce que c'était un homme d'affaires, il avait de l'argent et il a utilisé tout ce qu'il avait comme argent dans son coffre-fort pour acheter des vies. Et à un moment donné, il s'est retrouvé donc à œuvrer de commun accord avec Alexis Briquet. Ils ont réussi à avoir un accord signé par le gouvernement par intérim, disant « nous allons évacuer des enfants en détresse, il faut qu'on puisse les évacuer ». Et grâce à cet accord, ils ont pu organiser un premier convoi qui est parti début juin de Boutaré. À partir de l'installation dans cette école sociale, ils ont organisé... Alexis a été rejoint par son épouse, Diana Cavadini, qui, elle, était déléguée de Terre des Hommes Italie. Donc c'était les deux Terres des Hommes mais représentées chacun par une personne, finalement, qui ont organisé le convoi du 18 juin. Ils étaient aidés également par deux journalistes italiens, un frère franciscain yougoslave, une religieuse québécoise. Voilà, c'était un peu...
À 4 ou 5, ils ont sauvé plus de 1000 enfants.
Le total des trois convois a permis d'exfiltrer du Rwanda plus de 1000 enfants, effectivement. Le convoi du 18 juin, c'était... peut-être celui où il y avait le moins d'enfants, mais celui qui a été le plus organisé, parce qu'ils avaient fait des listes de noms. Chaque enfant portait une étiquette avec son nom. Et là, c'était à peu près 200 enfants qui ont pu quitter Boutaré pour aller jusqu'à Bujumbura, au Burundi.
Jusqu'au Burundi. Et vous n'auriez pas dû en être, ni vous ni votre mère, Beata Umumbi-Imeres, parce que ces convois transportaient des enfants de moins de 12 ans. Donc vous avez dû traverser, ils vous ont laissé entrer, vous ont laissé monter.
Nous, c'était vraiment des grands camions bennes qui transportaient les marchandises. Hein, donc, avec
il y a des images hein, de ce
oui, ces j'ai
convois.
Retrouvé
c'est
des
le point
images.
De départ aussi de ces images, c'est le point de départ du convoi, du livre.
Et il faut comprendre qu'entre Butare et la frontière de la Kanyarou, donc entre le Rwanda et le Burundi, il y avait à peine une trentaine de kilomètres, mais la route était hérissée de ce qu'on appelait des barrières, c'est-à-dire des checkpoints, sur lesquels sévissaient des miliciens qui... tuer tous les toussés qu'il pouvait et à chaque arrêt, à chaque fois qu'on sentait que le véhicule ralentissait, on demandait aux enfants de s'asseoir sur nous de façon à ce que quand les miliciens qui étaient obligés de laisser passer ces camions parce qu'il y avait ce fameux accord avec le gouvernement par intérim et qu'il y avait le préfet ou tout qui accompagnait le convoi, mais néanmoins ils jetaient un coup d'œil à chaque fois dans les camions. Et s'ils nous avaient découvertes, ils nous auraient évidemment tués. Mais nous arrivons presque sans embâche jusqu'à la frontière. Là, nous devons sortir du camion parce que les véhicules restent au Rwanda. C'est une scène qui m'a beaucoup marquée. Un militaire non gradé, je pense, qui est là, qui voit ma mère et qui la met en joue avec son... Je pense c'est une Kalachnikov, je ne sais pas. Et ça se joue en quelques secondes, mais il y a un officier, Hutu, qui d'ailleurs a été jugé au tribunal pénal international pour le Rwanda, donc il a fortement participé au génocide, qui connaît ma mère parce qu'ils sont originaires de la même colline, et qui voit ce militaire sur le point de tirer sur ma mère. Et il se fait que ce qu'on voit là... était filmé par des journalistes. Il a été accompagné par des journalistes dont j'apprendrai plus tard qu'ils étaient de la BBC. L'officier fait signe au militaire, façon de lui dire « Tu ne peux pas tuer cette femme devant les Blancs qui sont en train de filmer. » Et on s'en sort comme ça. Et ce n'est que une fois la frontière traversée, on traversera à pied pour rejoindre les véhicules de l'autre côté, qu'on devient des survivantes, finalement.
Et que commence une autre vie, une vie ailleurs. Vous êtes arrivée en France, Beata Omoubié-Imérès, dans une famille du nord de la France, à côté de Lille. Chantal et Bernard, tous les deux parents de trois filles. Et dans le convoi, vous dites « La famille d'accueil ne m'a pas seulement offert l'affection, le gîte et le couvert. » Elle m'a aussi aidé à penser, P-A-N, mon chagrin en m'ouvrant les portes de la psychothérapie.
Oui, et je ne les remercierai jamais assez pour ça, enfin pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Chantal et Bernard Blondel étaient, je pense, particulièrement sensibilisés aux questions de santé mentale, puisque leur dernière fille, Fanny, souffrait elle-même de troubles psychiques assez importants. Malheureusement, elle finira quelques années plus tard par se donner la mort. Mais en tout cas, ils étaient très, très conscients de la nécessité d'être accompagnés. Et donc, ils m'amènent voir une psy, psychologue, je pense, à l'époque. Et depuis 1994, je n'ai cessé de prendre soin de ma santé mentale, en tout cas de la confier à des psychiatres, à des psychologues qui m'ont accompagnée et qui font que je suis aujourd'hui une femme debout.
Comment se passent sinon les premières années en France ? Est-ce que vous avez été bien accueillie, alors évidemment en dehors de la famille ? Vous étiez dans un lycée catholique ?
Oui. J'ai été très très bien accueillie. Enfin, quand je pense toujours à la chance immense que j'ai eue quand je vois l'accueil parfois indigne des jeunes exilés aujourd'hui en France qui arrivent ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Outre Chantal et Bernard, il y a une dans la même famille, il y a aussi Odile et Alain Bétrémieux qui ont été un soutien, notamment quand je suis devenue étudiante, et des gens qui m'amènent, qui m'ont fait découvrir la culture française, qui essayaient de me changer les idées, qui m'offraient des vêtements, tout ce genre de grands ou petits gestes qui ont été tellement importants. Et effectivement, un lycée, l'institution Sainte-Marie à Beaucamp-Ligny, dont le directeur Michel Daluin, qui connaissait d'ailleurs le Rwanda, parce que c'était quelqu'un qui était pas mal investi dans des questions humanitaires, je crois, et qui dit que je peux être accueillie pendant 3 ans à l'internat, gratuitement. Dans ce lycée qui est une sorte de boîte à bac avec là encore je me retrouve de nouveau transfuge parce que c'est un lycée où il y a les enfants des grandes familles du Nord. Je découvre aussi un certain monde français, mais où je vais avoir un accueil aussi, et ça c'est ce que je dis beaucoup aux jeunes quand je vais dans les lycées, de la part de mes camarades qui ont vu des images terribles à la télévision du Rwanda et qui vont peut-être même plus que les adultes, parce que je pense que les adultes me demandent peu, à part ma famille d'accueil, de raconter ce que nous avons traversé. Ce qui me fera dire d'ailleurs que cette expérience a avant tout été inaudible, mais des camarades qui me demandent de leur parler de mon pays, qui s'intéressent à moi, et puis qui me disent, tiens, on va t'expliquer comment s'habille ici, on va te faire découvrir la musique française. Donc vraiment une grande générosité, alors que ce sont des enfants très privilégiés et qui pourraient ne pas... J'ai vécu assez peu de rejet et de racisme en arrivant en France, et ça aussi, ça m'a vraiment aidé à me reconstruire.
Il faut juste dire un mot peut-être de votre mère. Votre mère a dû repartir au Rwanda quelques mois après votre arrivée, mais elle vous a rejoint quelques années plus tard. Elle est toujours là.
Mais elle est partie très très vite après pour essayer de savoir ce qu'il était arrivé de la famille, de trouver des survivants. Et ça a été des années extrêmement difficiles. Le pays était complètement détruit. Il y avait des charniers un peu partout, et les gens étaient, en lambeaux quelque part. Donc ça a été aussi une expérience très fragilisante pour elle. Il y avait ma cousine qui avait survécu néanmoins, et les premières années... Une cousine, oui. Rafiki, elle s'est occupée d'elle.
Et vous, en France, Beata Omoubi-Mérès, vous faites votre petit bonhomme de chemin en très bon élève, fidèle à l'éducation que vous aviez reçue, prépa littéraire, Sciences Po Lille, DESS à la Sorbonne en coopération internationale et humanitaire. Dans la vie sociale, vous êtes devenue une femme qui, vous l'écrivez, par son travail et ses engagements, est parvenue à rendre au monde un peu de l'aide reçue à l'adolescence. Ces engagements que vous appelez, à la suite du philosophe Jan Patočka, la solidarité des ébranlés, c'est ce que nous verrons dans l'épisode suivant. Merci beaucoup et à demain.
Merci, à demain.
À suivre l'épisode 3, la solidarité des ébranlés. C'était À voix nue avec Beata Omoubi-Mérès, réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme À voix nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.